Bonjour et bienvenue sur BAC FM 106.1. C'est l'heure de la Fabrique citoyenne et vous êtes en compagnie de Mathéo Weman
et Zoé Georgeon Averader,
élèves de terminale de l'atelier Sciences Po. Le 2 octobre dernier, la Maison de la Culture de Nevers a accueilli plusieurs intervenants lors d'une conférence débat afin d'ouvrir le festival du Chemin des Pionniers. À cette occasion, nous avons pu interviewer certains de ces intervenants et voici pour commencer l'interview de Bertrand Badie, politiste français, spécialiste des relations internationales, mais également professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi qu'enseignant-chercheur associé au Centre d'études et de recherche internationales.
Bonjour Monsieur Badie, merci de nous accorder cette interview. Donc, je vais vous poser quelques questions sur des faits d'actualité. En 2018, vous avez signé avec des intellectuels, des artistes, des militants associatifs et des syndicalistes le manifeste pour l'accueil des migrants. Monsieur Mélenchon a refusé de signer ce manifeste. Avez-vous regardé le débat entre Monsieur Mélenchon et Monsieur Zemmour et qu'avez-vous pensé du traitement de la question de l'immigration au centre de la politique de Monsieur Zemmour ?
Non, je n'ai pas regardé parce que ça ne m'intéressait pas. Il y avait deux débats, un débat Pécresse Darmanin et un débat Zemmour-Mélenchon. Moi, j'ai regardé Alex Hugo sur la 3.
D'accord. Dans vos différents livres, vous êtes pour l'arrêt des interventions unilatérales. Qu'avez-vous pensé de l'intervention américaine en Afghanistan et du retrait des troupes associées à la prise du pouvoir des talibans ?
Comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà, l'épisode de Kaboul, qui était spectaculaire et dramatique en même temps, ce n'était que l'aboutissement d'une très longue agonie. Si vous regardez toutes les interventions militaires, je dirais post-bipolaire, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, après la disparition de l'Union soviétique, toutes ces interventions qui, pour la plupart, ont été faites à l'initiative de ce qu'on appelle les vieilles puissances, celles qui appartenaient au système international d'autrefois, dit westphalien, toutes ces interventions ont échoué. Il n'y en a pas une qui a abouti au résultat qui était en principe visé lorsque l'action a été entreprise. Qu'il s'agisse de l'Afghanistan, qu'il s'agisse du Sahel, pour parler de deux champs d'actualité, mais qu'il s'agisse aussi de la Somalie, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse des 52, n'oubliez pas, 52 interventions militaires françaises en Afrique. Donc, c'était une leçon. C'était une leçon qui montre que, d'abord, les conflits d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux d'hier, ne sont pas des conflits de rapport de puissance. Ce sont des conflits qui sont liés à la souffrance sociale, à la décomposition des sociétés, à tout un ensemble de défaillances qui ne se combattent pas avec le canon. Au contraire, le canon vient renforcer ces défaillances, donc aggraver la situation qui tourne encore davantage au bénéfice des entrepreneurs de violence. J'appelle entrepreneurs de violence, qui est un terme plus exact que terroriste, les groupes combattants sur ces différents espaces.
Il existe différents mouvements dans les sociétés pour lutter contre les inégalités, que ce soit dans le rapport de la place des femmes ou dans la place de l'écologie. Qu'en pensez-vous ?
Vous savez, les souffrances sociales ne se séparent pas les unes des autres. Elles se renforcent. Vous avez raison de pointer la condition féminine. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que face aux risques sanitaires, face à la pauvreté, face au sous-emploi, face au déficit d'éducation, ce sont les femmes qui payent plus cher que les hommes. Pourquoi ? Parce que une inégalité renforce les autres inégalités. On est dans un monde où les grandes insécurités, où les grandes déficiences sociales font système, s'alimentent les unes les autres. Donc je ne séparerai pas ces différentes menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité. Je dirais qu'il faut faire ce que le programme des Nations Unies pour le développement nous avait annoncé à travers son fameux rapport sur la sécurité humaine, c'est-à-dire définir ces sécurités humaines et viser à leur accomplissement toutes ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas vaincre l'insécurité économique si on ne vainc pas l'insécurité climatique. On ne peut pas vaincre l'insécurité sanitaire si on ne vainc pas l'insécurité climatique. Et on pourrait continuer ainsi. Donc, c'est un programme social. Les conflits de ce genre nouveau que je décrivais tout à l'heure ne se traitent plus avec le canon, ils se traitent socialement, par le développement social, par le développement humain.
Donc moi j'ai quelques questions à propos de votre ouvrage « L'impuissance de la puissance » qui est donc paru en 2004. Et dans cet ouvrage, vous décrivez un bel avenir du multilatéralisme. Et donc j'aimerais savoir si cet bel avenir est toujours d'actualité.
Alors, vous savez, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. On parle jamais de ceux qui font leur travail et qui arrivent à l'heure. On parle toujours des échecs du multilatéralisme. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux, notamment dans les domaines classiques de la sécurité interétatique, de la sécurité, je dirais, politico-militaire. Mais il faut que vous voyez, ça c'est un message très important, que dans le système multilatéral, dans ce qu'on appelle le système onusien, il y a quantité d'institutions qui font un travail absolument remarquable et qui a atteint des résultats tout à fait méritoires. Je vais vous en donner quelques exemples. Il est de bon ton de se moquer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais qui dit que l'OMS a permis d'éradiquer la variole en Afrique? S'il n'y a plus de variole en Afrique, c'est grâce à l'OMS. On parle très peu du Programme alimentaire mondial et de la FAO, la grande organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y a aujourd'hui 825 millions de femmes et d'hommes qui ne mangent pas à leur faim, ce qui est un scandale et un très grand danger. Mais il y a 50 ans, il y en avait déjà 825 millions. Entre-temps, la population mondiale a doublé. Et si le nombre des affamés est relativement stable, à un niveau scandaleusement et dangereusement élevé, bien sûr, c'est grâce au PAM, c'est grâce à la FAO. Voilà un travail tout à fait remarquable. Je vous montrerai aussi volontiers que sans une éducation renforcée, le développement ne peut pas se faire. Et l'UNESCO a des programmes en matière éducative qui sont tout à fait remarquables et qui ont également porté leurs fruits. Et que dire de l'UNICEF, spécialisé dans la question des enfants, et que dire du Haut Commissariat aux réfugiés? Ça, c'est le bel avenir du multilatéralisme.
Toujours dans votre ouvrage, vous aviez un chapitre consacré à l'opinion actuelle de la puissance. Est-ce que cette opinion est le même de nos jours ou est-ce qu'il a totalement changé? Et suite à vos propos, on peut en conclure donc que la puissance unipolaire est toujours impossible.
Alors, vous savez, la puissance, c'est le concept fétiche des relations internationales. C'est-à-dire que quand vous parlez de relations internationales, je dirais de façon classique, le premier mot qui vient à l'esprit, à la bouche, c'est le mot puissance. On dit que les relations internationales, c'est un rapport de puissance, que c'est une confrontation de puissance, que c'est un choc de puissance, que c'est un équilibre de puissance. Bon, tout ça, c'était vrai avant, comme dit la publicité. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, que voit-on? Vous m'interrogiez tout à l'heure sur l'Afghanistan, que la puissance, elle ne marche pas. C'est ce que j'avais annoncé dans mon livre il y a déjà, effectivement, près de 20 ans. Hein, et ça s'est vérifié au fil du temps. Donc, il y a une sorte de relativisation de la puissance, même si le choc émotionnel du mot fait que les gens continuent à craindre quelque chose qui est devenu un peu fantomatique. Et donc, avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, les guerres, on ne les gagne plus, et quand on les gagne, c'est le plus faible qui l'emporte.
Maintenant, j'aimerais bien vous poser quelques questions sur votre parcours à Sciences Po. Et donc, j'aimerais bien savoir à quel moment vous avez su qu'il fallait que vous étudiez les relations internationales et pourquoi, de nos jours, il faut étudier les relations internationales.
Vous savez, moi, je suis entré à Sciences Po en 1968. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer ce que ça pouvait signifier. Et à l'époque, on était persuadé qu'on allait faire la révolution et qu'on allait la gagner. Bon. Et donc j'ai travaillé dans un premier temps autour des thèmes de la grève, qui a été le sujet de ma thèse, des partis de gauche, du parti communiste sur lequel j'avais travaillé également. Et très vite je me suis aperçu que j'étais dans une impasse. C'est-à-dire que réfléchir sur des problèmes nationaux, domestiques, disent les anglo-saxons, c'est être aveugle sur ce qui de plus en plus déterminait les comportements politiques et les choix politiques, à savoir la mondialisation et l'univers mondial. Et donc j'ai peu à peu glissé vers une étude de ce monde, du contexte dans lequel les actions et les acteurs que j'étudiais au départ venaient déployer leur travail, leurs convictions, leur mobilisation. Et ça m'a amené, dès les années 80, à travailler sur la comparaison entre les États, pour montrer que les États, ben, s'ils étaient issus du monde musulman, par exemple, et du monde occidental, ils ne pouvaient pas fonctionner de la même façon, parce que les histoires étaient différentes, donc les aboutissements étaient différents. Et puis, là encore, je n'étais pas satisfait, parce que la comparaison entre les États laissait échapper quelque chose, à savoir que ben, les relations internationales, ce n'est pas seulement un choc d'État, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai montré d'abord, dans un ouvrage que j'ai publié en 92, l'État importé, que ces États, lorsqu'ils étaient exportés dans les pays du Sud, échouaient, ce qui donc ouvrait à toute autre problématique. Et à partir de là, j'ai été un petit peu plus loin, je me suis dit, mais tous les fondements de l'État sont en état de décomposition avancée. Alors j'ai fait en 1995 un livre que j'appelais « La fin des territoires » pour montrer que le principe de territorialité ne fonctionnait pas comme avant. Puis après j'ai fait un livre sur la souveraineté pour montrer que la souveraineté ne fonctionnait pas comme avant. Et j'ai ainsi continué sur la puissance en montrant que la puissance ne fonctionnait pas comme avant. Et voilà, rien comme avant.
D'accord. Ma camarade et moi souhaitions intégrer Sciences Po. C'est pour cela qu'on aimerait savoir quels conseils vous nous donneriez pour intégrer cette école et quel ouvrage on pourrait étudier afin d'être préparé à cette école.
Bien évidemment.
En plus des vôtres, bien évidemment.
Non, soyons sérieux. Vous savez, il faut... Sciences Po est à la portée de toutes celles et tous ceux qui se passionne pour la cité et pour le monde. Réussir à Sciences Po, ce n'est pas une affaire de connaissance, c'est une affaire de passion. Et les jurys sont toujours très attentifs au degré de motivation dont vous faites preuve. Ce dont nous avons besoin, c'est des étudiants qui veulent regarder le monde, qui veulent le changer aussi d'un certain point de vue, parce que rien de statique peut véritablement gagner et réussir. Et donc, plongez-vous dans l'actualité, regardez le monde, regardez les souffrances du monde, parce que les relations internationales, c'est la science des souffrances mondiales, hein, d'abord et avant tout. Regardez ces sociétés qui essayent de faire face à des défis qui paraissent hors de leur portée, et qui, quelquefois, et même assez souvent, y réussissent. Et enflammez-vous pour ça, motivez-vous pour cela, et vous verrez que vous gagnerez.
Vous écoutez La Fabrique Citoyenne sur BAC FM 106.1 et avant d'écouter la prochaine interview, voici une pause musicale.
We were just about to lose our home. Diamonds and radio. Moving in the dead of night. We took photographs to some just so. Still we someone to know. We were moving at the speed of light. If you want to, just an 80.
places. Fly if you want to, that's alright. But if you want to, call me, call this line. Just an
Vous êtes toujours sur BAC FM 106.1 dans la Fabrique citoyenne avec Zoé Georgeon Verrader
et Mathéo Wehmann.
Nous allons passer à l'interview de Catherine Vitold de Venden, politologue militante du droit à l'immigration en France. Elle est également directrice de recherche émérite au CNRS et ancienne enseignante à l'Institut d'études politiques de Paris. Cette interview a été réalisée par Lily Biesel et Louane Bié, lycéenne en classe de terminale et membre de l'atelier Sciences Po. Nos camarades ont pu l'interviewer dans le cadre d'une conférence débat qui a ouvert le Festival du Chemin des Pionniers le 2 octobre dernier. Bonjour Catherine Vitold de Venden, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.
Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'immigration. Pourquoi ce thème ?
Pourquoi ce thème ? Ça, c'est une histoire familiale. Moi, je suis d'origine, j'ai un nom compliqué à écrire. J'arrive jamais à tirer un billet de train d'une gare parce que le H est devant le T, etc. Moi, je suis d'origine balte. Ma famille faisait partie des minorités de l'Empire russe et qui ont quitté la Russie tsariste quand les droits des minorités ont été fortement écornés dans une politique de russification qui avait été menée par le père de Nicolas II. Et donc, ma famille a migré vers la France d'abord. Puis ensuite, ils ont travaillé en Amérique latine et ils sont revenus ensuite en France. Du côté paternel, c'est une histoire de migration. Et puis les autres, côté maternel, c'était des Alsaciens qui ont quitté l'Alsace après 1870. D'autres qui venaient de Savoie, la Savoie étant devenue française seulement par plébiscite sous Napoléon III, mais qui se considéraient plutôt comme des Piémontais que comme véritablement des Français. Donc ma famille a été traversée par ces questions de frontières et de migration.
D'accord. Alors du coup, comment voyez-vous l'immigration ?
Je pense que c'est une richesse parce que si je regarde simplement l'itinéraire familial, on s'est enrichi de ces expériences. On a un autre regard quand on est de l'extérieur. Et souvent, moi, ce que je constate, c'est que je fais partie du conseil d'orientation du musée de l'immigration. Beaucoup d'artistes, de créateurs, etc., doivent à leur histoire migratoire un autre regard qui leur a permis d'être présent, notamment dans la créativité. Ça peut être la mode, ça peut être les films, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, etc. Le regard de quelqu'un qui est venu d'ailleurs est souvent une source de créativité. Et les pays qui se sont construits autour de l'immigration ont été gagnants d'avoir fait ce pari par rapport à ceux qui se sont repliés sur eux-mêmes. L'Autriche-Hongrie était un grand foyer de savants à travers l'Europe du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les États-Unis sont l'illustration de la richesse qu'ils ont tirée de l'immigration, et le métissage latino-américain est aussi une richesse culturelle, par exemple. Donc je pense que les pays qui croient que le bonheur c'est dans l'homogénéité des populations font fausse route.
Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui ont peur de cette immigration ?
Ben, je dirais que c'est une erreur de vision. C'est-à-dire qu'en fait, l'immigration, c'est banal, c'est quelque chose de mondial, que de toute façon, on n'arrêtera pas. Quelles que soient les politiques dissuasives que l'on pourra mener pour fermer les frontières, les gens, ils continueront à vouloir bouger, ils contourneront. Donc l'idée qu'on va fermer, arrêter l'immigration est une idée stupide. C'est une sorte de rêve de quelques fous illuminés, si j'ose dire, mais c'est une idée fausse, parce que c'est comme le climat, c'est comme beaucoup d'autres phénomènes qui accompagnent l'évolution du monde. C'est un phénomène qui de toute façon accompagne ce monde mondialisé. Donc ça, j'aurais tendance à dire, n'essayez pas d'avoir une politique, sauf si vous mettez un soldat armé d'une Kalachnikov tous les 10 mètres, vous n'arrêterez pas l'immigration. Ça, c'est pas possible à travers le monde. Le phénomène se diffuse. C'est pas l'invasion, c'est une diffusion lente et continue qui, pour des raisons diverses qu'on a évoquées aujourd'hui, se poursuit donc à travers ce monde de plus en plus interconnecté, interdépendant, etc.
Et alors, en 2014, vous avez démantelé, à travers un article du Nouvel Observateur, les propos d'Éric Zemmour prononcés dans l'émission télévisée « On n'est pas couché ». Mmh. Aujourd'hui, Éric Zemmour fait beaucoup parler de lui à l'approche des élections présidentielles. Qu'en pensez-vous ?
Bah, je pense que, comme Bertrand Badi le disait, c'est une sorte de, je ne sais pas le terme qu'il a employé, mais une sorte de clown illuminé, si j'ose dire, qui malheureusement a beaucoup de succès, parce que les gens font crédit à ce genre de discours. Tout est faux dans tout ce qu'il raconte. Tout est faux. Par exemple, dire que la déchristianisation de la France, pour donner un exemple, est liée à l'islam, totalement faux. Il suffit de parcourir les territoires, comme on dit aujourd'hui. La déchristianisation de la France, elle est liée, et donc à la déchristianisation de la population. Ceux qui étaient chrétiens pratiquants dans le passé ne sont pas devenus musulmans, ils sont devenus non pratiquants. Donc ça, c'est une évidence. Hein. C'est, bon, voilà. Et des quantités de choses comme ça. Donc l'idée qu'on va figer notre identité à l'intérieur de frontières est une idée fausse. On emprunte tous les jours dans notre vie quotidienne des éléments qui font partie des échanges, même le fait de prendre du café le matin. Ben, en France, du temps des Gaulois, on ne buvait pas de café, ni même du temps de Louis XIV, qui buvait un verre de vin et un morceau de pain trempé dedans. Donc le café, c'est exotique, le thé est exotique, le chocolat est exotique. On vit d'emprunt et de reconstruction à notre propre sauce, si j'ose dire, de toute une série d'emprunts du monde entier. Et c'est vrai, de plus en plus, un peu partout, sauf dans les îles désertes.
Donc, nous avons pu voir que vous étiez directrice de recherche éméritée au CNRS.
Oui.
Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que l'on fait au CNRS ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est un métier que j'adore, que j'ai beaucoup aimé tout au long de ma vie. On est chercheur, hein. On fait de la recherche, c'est-à-dire on propose des thèmes de recherche et on entre au CNRS sur un projet de recherche. Moi, ce que j'avais proposé quand je suis entrée au CNRS, il y a longtemps, c'était d'analyser précisément, on est dans le sujet, la dimension politique du thème de l'immigration, c'est-à-dire la politisation de la migration, la politisation des acteurs, des associations, des migrants aussi, dans un contexte où c'était pas évident parce que l'immigration, je suis entrée en 79, c'était pas un sujet très politique. Hein, donc c'était bon, voilà. Et j'étais la première politologue, c'est-à-dire en sciences politiques, dans la discipline de la science politique, à proposer au CNRS de traiter de l'immigration. Donc on fait de la recherche et au sein d'une discipline, on est choisi parmi notre discipline. Et aujourd'hui, pour faire de la recherche, il faut avoir fait une thèse, non seulement un parcours universitaire, donc la licence, le master, une thèse, des publications, ou avoir participé à des contrats de recherche, etc., éventuellement avoir enseigné. C'est à peu près le métier que celui de le même métier que celui de maître de conférence et de professeur d'université. Les uns font plus d'enseignement et moins de recherche. Nous, on fait plus de recherche et moins d'enseignement, mais la plupart d'entre nous, on fait les deux. Tout au long de sa vie, donc on écrit des livres, on écrit des articles, on fait travailler les étudiants, qui sont nos étudiants de thèse aussi. On participe à des programmes de recherche avec beaucoup de terrain. Moi, ce que j'adore, c'est la mobilité. Et donc, j'ai fait beaucoup de terrain, ne serait-ce qu'en France. J'ai fait 2 ans d'enquête chez Renault. J'ai fait une grande étude sur les ouvriers agricoles. J'ai travaillé sur les jeunes issus de l'immigration de culture musulmane. J'ai travaillé sur l'armée et ses recrutements de Français issus de l'immigration. Enfin, j'ai fait des quantités de terrain, les familles de réfugiés, etc. Donc, c'est passionnant parce qu'on entre dans le vif du sujet. Quand on est dans ces terrains, on est pris par son terrain. Écrire des livres aussi, ça peut être une aventure parce qu'on s'installe dans le bouquin et c'est une sorte de... pour certains, je leur dis, écoutez, entrez au couvent, c'est le sentiment que vous aurez si vous voulez finir votre thèse parce que il faut vivre dedans tout le temps pour être... Mais c'est passionnant comme aventure. Donc faire un livre aussi, c'est entrer dans l'histoire du livre qu'on a décidé de faire. Donc tout ça, c'est des expériences formidables. Puis quand on est chercheur, souvent on voyage énormément. Hein, et ça, on apprend beaucoup. Moi, j'ai visité 61 pays. Bertrand Badie a dû en visiter le double parce qu'il est plus connu que moi. Mais je me plains pas de mon sort. Et donc j'ai parcouru presque le monde entier visitable à travers les questions migratoires parce que précisément c'est un sujet mondial. Donc voilà ce qu'on fait comme chercheur, on est fonctionnaire d'État, on enseigne aussi à l'université. On délivre des thèses, on fait partie aussi de grandes conférences internationales, souvent comme experts. On côtoie beaucoup les ONG, les organisations internationales gouvernementales, etc. Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité des publics que je rencontre. Ça pourra être des familles de réfugiés, des associations de défense des droits des étrangers, ça pourra être des banlieues, ça pourra être des gens qui travaillent à l'ONU, des gens des différents gouvernements, des collègues universitaires, universitaires comme moi qui viennent d'autres pays. La diversité des gens qu'on rencontre, ne serait-ce que dans une semaine, est fantastique. Et ça s'était un peu arrêté du temps de la Covid, mais ça reprend. Et ça, rien que ça, c'est, je trouve, un enrichissement formidable. Et surtout, vivre avec des jeunes, travailler avec des jeunes, c'est formidable aussi tout au long de sa vie.
D'accord. Donc, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment du coup sur le thème de l'immigration. Et je voulais savoir quel avait été votre ouvrage préféré à écrire.
Ah ben, ça dépend. Le préféré n'est pas nécessairement celui qui a eu le plus de succès. Parmi les livres qui ont eu le plus de succès en termes de diffusion, il y a l'Atlas des migrations, qui est un atlas qui est devenu, si j'ose dire, un classique, qui a été traduit dans plusieurs langues. L'Atlas des migrations chez Autrement, c'est un tout petit livre, un tout plat, mais qui fait une centaine de pages, mais avec beaucoup de cartes. Il y a quatre carte par page et du texte. Alors ça se diffuse bien parce que les textes sont courts et les cartes c'est du visuel. Donc ça parle et j'ai fait 6 éditions de cet atlas. Mais c'est pas nécessairement celui que j'ai eu le plus de plaisir à écrire parce qu'il fallait être très synthétique et c'est toujours très difficile de se restreindre. Moi j'ai été contente de publier ma thèse par exemple qui était sur les phénomènes de politisation, dépolitisation, repolitisation du phénomène migratoire. Ça s'appelait les immigrés et la politique. Ben, ça, c'est, j'avais le sentiment d'avoir atteint ce que je pouvais faire de mieux à l'époque, c'était cette réflexion sur les immigrés et la politique, qui malheureusement s'est vérifiée, d'ailleurs ensuite. À une époque, on disait que c'était pas du tout un sujet politisé. Hein. C'est peut-être le livre qui me plaît le plus, même si aujourd'hui je l'écrirais pas de la même façon, parce qu'il y a des lourdeurs, il y a des longueurs, etc. Quand on vieillit, on est plus élégant et plus bref, si j'ose dire, dans notre façon d'écrire. Après, il y a des petits livres que j'ai beaucoup aimés. Le droit d'émigrer, qui est un tout petit livre publié par CNRS Éditions, qui coûte 4 euros, un petit livre, ce qu'ils appellent les petits noirs du CNRS. Ben, c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire sur le droit à la mobilité comme droit de l'homme, par exemple, où je croise la philosophie et puis le droit. Donc ça, c'était un très bel exercice d'écriture. Bon, y a tout... Et puis j'aime beaucoup aussi dans les aspects que j'aime de mon métier, c'est j'enseigne, ben, je travaille pas mal en anglais, mais aussi en italien, et j'enseigne un peu en Italie, donc j'enseigne à Rome, et ça c'est merveilleux.
Donc en plus d'être directrice de recherche éméritée au CNRS, vous êtes aussi docteur en sciences politiques.
Ça c'est normal, c'est normal parce que pour entrer au CNRS, comme je vous dis, il faut une thèse.
Okay.
Donc voilà.
Et donc on voulait savoir en quoi consiste le métier de docteur en sciences politiques.
Ah ben, c'est pas un métier, c'est mon titre universitaire. Comme d'accord. Vous, si vous continuez vos études, vous serez docteur en quelque chose. Et pour entrer au CNRS, il faut être docteur dans sa discipline.
D'accord. Donc en plus de cela, vous enseignez l'immigration et politique migratoire en Europe, en niveau master à Sciences Po. Donc que cherchez-vous à transmettre à vos élèves?
Essayer de leur faire connaître la politique migratoire de l'Union européenne, ce qui est un des aspects un peu compliqués. Les gens n'y comprennent pas grand-chose, c'est très technique si j'ose dire. Donc essayer de débroussailler un peu toute cette technicité qui cache en fait du sécuritaire. Analyser aussi les facteurs de la migration. Pourquoi l'Europe est une grande région d'immigration? Qu'est-ce qui explique l'attraction de l'Europe pour ses voisins du Sud surtout? Donc ça c'est un sujet important, les facteurs structurels. C'est pour ça qu'on n'arrêtera pas l'immigration. C'est un phénomène structurel qui accompagne l'évolution du monde. L'Europe est une des destinations parmi d'autres. Il faut aussi relativiser l'Europe par rapport à d'autres destinations comme les États-Unis, le Golfe et quelques autres régions. Et puis, on fait des études de cas. On étudie des pays. Par exemple, lundi, on va parler dans mon cours de l'Allemagne. Donc l'Allemagne, le plus grand pays d'immigration aujourd'hui en Europe. On aura une séance sur la France, on aura une sur le Royaume-Uni, le Brexit, sur les pays d'Europe du Sud, etc. Donc on essaye de décrypter un peu les spécificités propres à chacun des pays. Et puis on analyse aussi des phénomènes plus larges, par exemple les islam d'Europe, par exemple. Ça, c'est un sujet important. La thématique de la citoyenneté, de la nationalité et des discriminations, qui sont des thématiques très importantes si on veut étudier le sujet. Il y a beaucoup d'autres sujets transversaux que j'analyse plutôt dans mes livres, comme tout ce qu'on appelle les réseaux diasporiques, par exemple, donc qui commandent aussi le sens des migrations. C'est un sujet très vaste. Hein. Moi, j'ai dirigé des thèses, y compris sur par exemple, une Brésilienne sur... les choix de politique publique très compliqués pour le Brésil entre attirer des touristes qui font partie de la mobilité, les touristes, ou alors préserver l'Amazonie, par exemple. Hein. Donc ça, c'est des sujets éthiques qui se posent. J'ai eu des thèses sur des sujets très, très variés, sur les effets du réchauffement climatique, bien sûr, sur les migrations de l'Amérique centrale vers le Mexique et les États-Unis, les réfugiés du Soudan vers l'Égypte, etc. Donc des quantités de sujets. Et puis quand on se plonge dans ce que fait l'étudiant, on se plonge aussi dans son terrain, donc c'est très intéressant.
En tant que lycéen, nous nous interrogeons sur votre parcours scolaire. Qu'avez-vous fait pour arriver à une telle carrière professionnelle?
Moi, j'étais dans un lycée de province, une petite ville encore plus petite que Nevers, puisque j'étais en Picardie à Soissons. C'est le sud du département de l'Aisne, parce que mes parents étaient profs, ils avaient été nommés là. Donc voilà. En même temps, j'avais ce capital culturel, comme dirait Bourdieu, de l'histoire migratoire. C'était une histoire familiale, donc dont on parlait. La question des papiers, mon grand-père a toujours eu un titre de séjour en France, celui qui n'était pas français. C'était un sujet familial. On était très opposés à tout ce qui concerne les discriminations, donc c'était un sujet important. Ensuite, moi j'ai fait quelque chose d'assez classique, j'ai eu mention bien au bac à l'époque, maintenant c'est assez banal, mais à l'époque il y en avait moins, et c'était obligatoire pour entrer à Sciences Po. Et comme au lycée j'aimais beaucoup la philo, l'histoire, la géographie, mon professeur de philosophie m'a dit « vous devriez essayer Sciences Po ». Et quand j'ai passé le bac, j'ai dit au jury, je ne me rendais pas compte, mais c'était un peu du culot. Ben, pour moi, les profs m'ont demandé à l'oral, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je leur ai dit, ben, je veux entrer à Sciences Po. Mais pour que j'entre à Sciences Po, il faut que j'ai mention bien au bac. Et finalement, ils s'en fait en sorte, en tirant un peu les notes pour que j'ai la mention, et qui m'a permis d'entrer directement à Sciences Po, parce que si j'avais passé l'examen venant d'un petit lycée de province, j'aurais peut-être pas été reçue. Mais grâce à cette mention bien de l'époque, que j'ai pu entrer directement à Sciences Po, et j'ai adoré ce que j'ai fait à Sciences Po. J'étais d'ailleurs étudiante avec Bertrand Badie, puisqu'on a exactement le même âge et on était ensemble, et lui venait d'un lycée parisien, donc. Et ensuite, ben, j'ai parcouru, et en même temps je faisais du droit parce que je savais pas trop ce que j'allais faire comme métier, donc j'ai un double parcours droit et Sciences Po. Et donc on avait des cours à la fac de droit, mais l'essentiel de notre scolarité, bien sûr, c'était à Sciences Po. Et donc le fait d'avoir fait du droit, ça m'a beaucoup aidé pour les réfugiés, pour les traités internationaux, pour tout ce qui concerne le statut, la nationalité, etc. Donc c'est un cadre important pour étudier ces phénomènes-là. Et puis ensuite, j'ai demandé, quand j'ai eu fini Sciences Po, ben, j'ai fait, et le droit aussi, ben, j'ai demandé à Sciences Po, il y avait un cycle spécial pour les former des chercheurs, donc ça s'appelait le troisième cycle, où j'ai retrouvé Bertrand Badie d'ailleurs, et en fait, ben, on était peu nombreux, donc c'était assez sélectif, et on nous apprenait les métiers de la recherche, c'est-à-dire faire un entretien, comme vous le faites aujourd'hui, y compris dans des milieux difficiles, où les gens parlent pas très bien, donc ça c'est un peu plus compliqué, où ils ont peur aussi d'être interviewés, faire de la cartographie, souvent très utile dans notre métier, toute une série d'éléments techniques. À l'époque, on n'avait pas d'informatique, on codait des fiches perforées, etc. On apprenait à faire tout ça. Donc tous les métiers qui vont avec, pour les gens qui se destinent à étudier les sondages, par exemple. Donc on apprenait tous ces métiers. Puis on avait des cours théoriques aussi en sciences politiques, des philosophes. On a eu des grands profs comme Alfred Grosser, par exemple, qui est un grand spécialiste de l'Allemagne, Pierre Asner, qui a fait sa thèse avec Raymond Aron à Harvard. À Paris, on avait quand même la crème de la crème des profs. Aussi à la fac de droit, j'ai eu de très très grands profs de droit, puisqu'on était à Panthéon, donc voilà ce qu'il y avait de mieux. Ensuite, ben, j'ai fait d'abord un troisième cycle, la thèse de troisième cycle, puis après je suis entrée au CNRS, donc avec cette thèse d'abord de troisième cycle, et parce que j'avais commencé à être chargée de TD, à travailler sur des contrats de recherche qui sont, on est les petites mains de bon, gros programmes quand on démarre. Et puis avec tout ça, ben, j'ai pu entrer au CNRS du premier coup, donc je suis restée au CNRS parce que j'aime beaucoup ce métier, voilà.
D'accord. Pour finir, ici au lycée Raoul Foulereau, nous avons la chance de pouvoir participer à l'atelier Sciences Po qui nous prépare aux différentes étapes pour espérer intégrer l'école du même nom dans laquelle vous travaillez. Mm-hmm. Avez-vous un conseil à nous donner ?
Bah, d'abord, moi j'aurais tendance, parce que j'ai 5 enfants aussi, et je les ai fait travailler dans leurs études. Ça leur a d'ailleurs, semble-t-il, réussi. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à être très scolaire, c'est-à-dire que souvent ce dont on manque, c'est pas tellement des grandes idées qui sont diffusées ici ou là, c'est vraiment d'abord avoir une très très bonne formation en histoire contemporaine, c'est-à-dire entre 1789 et la période actuelle, avoir une très très bonne connaissance, ça vous servira pour tout en fait. Donc ne pas avoir de vie dans la matière, et à Sciences Po on nous faisait réviser tout notre programme d'histoire qui nous paraissait bizarre, mais je crois que ça c'est très très important. Lire la presse. Et si possible, si vous avez dans votre lycée Le Monde, ben c'est quand même une bonne introduction aux faits internationaux. Donc ça, je pense que c'est un bon conseil. S'exercer à rédiger facilement et à construire son argumentation quand on rédige, hein, dans une dissertation. Ce qu'on fait beaucoup à Sciences Po, puisqu'on nous apprend à faire des plans, comme on l'a rappelé Bertrand Badie, en deux parties, avec des sous-parties, tout ça bien construit. Donc ça, c'est très important. Bien se débrouiller en anglais, parce que quel que soit votre métier, vous aurez besoin de l'anglais, ça c'est fondamental, et surtout pour les métiers de la recherche. Donc ça, c'est une... Et puis une autre langue, si vous avez une autre langue, c'est encore mieux aussi. J'aurais tendance à dire, et ça on le fait beaucoup mieux aujourd'hui que dans le passé, bien se débrouiller à l'oral.
À l'instant, vous venez d'écouter l'interview de Catherine Vitol de Venden. C'est la fin de cette émission La Fabrique Citoyenne. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Bac FM.
Au revoir.